France Inter.
Noir, j'ai besoin d'obscurité, de rester seul dans le noir. La chambre des enfants, vous les fermez très bien. La régularisation, le schéma de Newton, les constantes exponentielles, tout virevolte dans ma tête. Demain, c'est mon exposé à Rutgers. Et la preuve ne tient toujours pas debout. J'ai besoin de marcher en solitaire pour réfléchir. Il y a urgence. Je suis quand même allée manger avec le reste de la famille, puis j'ai travaillé toute la soirée. Un certain calcul sur lequel je comptais ferme ne marche plus. J'avais dû me tromper. Grave ou pas grave? Vers 2h du matin, j'arrête. J'ai l'impression que tout, finalement, tout va bien marcher. Cédric Villani est ce soir notre invité. Et comme chaque soir, nous commençons en musique avec une petite merveille que Cédric aime, une chanson des Ted Red.
Emma, je ne sais pourquoi Emma, mais m'a-t-elle Emma pourquoi moi?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là?
Emma, mais m'a-t-elle Emma moi?
Quand on s'ennuie, on se dit que c'est beau la vie. La loupe pas, elle passera qu'une fois entre les cordes d'une mélodie. La sol fa si, c'est pas si fa sol la.
Si tu le veux, on s'en fout plein les yeux. Entre les dents, la chair et du ciment. Au pire du mieux, on sera seul, on sera deux. Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment. Emma, je ne sais pourquoi Emma. Mais m'a-t-elle Emma pourquoi moi?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là?
Emma, mais m'a-t-elle Emma moi?
La 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 la.
Y'a pas la vie si y'a pas la folie. La lâche pas, elle passera qu'une fois. Dans de bien belles, belles mélodies. Si ré la do, c'est pas do ré si la.
J'sais pas si mieux, mais j'te boufferai les yeux. On est vivant tant qu'il est temps, encore temps. Comme on est deux, on sera seul, on sera mieux. Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment.
Emma, je ne sais pourquoi Emma.
Mais m'a-t-elle Emma pourquoi moi?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, m'a-t-elle Emma moi? Emma, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, pourquoi moi?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là?
Emma, moi.
À quel âge vous avez pensé que vous étiez intelligent, Cédric Villani?
Bonsoir Laure Adler. Je ne sais pas si j'ai jamais réfléchi à cette question et j'ai toujours pensé que intelligent était un mot qui est mal défini. Il faut s'en garder.
Bah, vous avez compris que vous n'étiez pas trop bête quand même.
Ah, quand on est tout jeune, on ne se pose pas tellement ces questions. On se demande qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire et vers quoi se portent mes intérêts. Et très tôt, mes intérêts se sont portés vers les livres, lectures en tout genre, et puis des questions, beaucoup de questions liées à des sujets aussi variés que les histoires de détectives, et les histoires de dinosaures, et les histoires de mathématiques.
Enfin, les histoires de mathématiques, on vous prend pour un mathématicien, vous l'êtes devenu, Cédric Villani. Mais avant, il y avait eu le désir de la enfin, j'en sais rien, vous l'êtes toujours mathématicien ?
Oui, mathématicien, c'est pour la vie.
Ah bon, c'est comme le vélo, on n'oublie jamais.
C'est comme le vélo, on n'oublie jamais, même si, effectivement, aujourd'hui, j'assume pleinement mon emploi du temps entièrement politique.
Alors, on parlera de tout cela tout à l'heure, mais en fait, c'était la littérature qui vous importait plus que les mathématiques. Vous avez beaucoup hésité entre les deux.
Pas tant que ça avec la littérature, mais j'ai grandi dans la littérature. Mes parents étaient tous les deux professeurs de lettres. Et oui, j'en ai mangé du roman d'aventure, du recueil de poésie, du roman de science-fiction quand j'étais gamin.
Et quand vous étiez en fin d'adolescence et que vous êtes rentré à Normale Sup, vous passiez votre temps à faire quoi ? La fête, non ?
Ah ! Il y a eu plusieurs époques. Je dirais que d'abord, il y a eu la première époque de l'étudiant studieux, mettant un point d'honneur à suivre les cours et à bien noter tout ce qui arrivait. Il y a eu l'époque
Ça n'a pas duré très longtemps, l'étudiant studieux.
Ça n'a pas duré très longtemps. Il a été remplacé par l'étudiant fêtard, comme doivent l'être les étudiants à un moment ou à un autre de leur cursus, bien sûr. L'étudiant fêtard qui passait ses nuits à discuter, à écouter de la musique avec ses collègues. L'étudiant fêtard a laissé la place à l'étudiant avide de culture qui passait une bonne partie de son temps dans les salles de concert et les salles de cinéma, puis à l'étudiant président de bureau des élèves qui s'occupait d'organiser la riche activité qui se tenait dans tous les clubs de l'école normale supérieure. Puis il a laissé la place à nouveau à l'étudiant studieux qui s'est mis en tête de travailler sur son diplôme d'études avancées, puis sa thèse en mathématiques.
De combien d'heures de sommeil avez-vous besoin ?
Oh, je ne saurais trop vous dire, c'est très irrégulier. Je ne dors pas beaucoup, mais je n'aime pas trop quantifier et laisser perdurer le mythe que certains ont selon lequel il y aurait du mérite à être un petit dormeur. Chacun dort la quantité qu'il lui faut.
L'étudiant Villani est devenu caïman. Caïman, à Normale Sup, ça veut dire oui. Enseignant vers les jeunes élèves. Manifestement, vous êtes vite piqué au jeu.
Effectivement, j'ai été caïman pendant 4 années après ma scolarité et c'est un poste extraordinaire, peut-être le plus beau que j'ai jamais eu, dans lequel on est...
Attendez, vous ne savez pas de quoi sera fait votre avenir, mon cher Cédric.
Tout est possible, bien sûr. Mais quand vous êtes caïman, vous êtes dans l'encadrement et encore étudiant, vous êtes intermédiaire entre les enseignants et les élèves. Et vous avez un vrai rôle, une responsabilité qui repose sur vous. On vous laisse en même temps une liberté extraordinaire. On vous demande juste de faire au mieux pour encadrer, conseiller les élèves, faire les TD, en même temps commencer vos recherches. Très beau poste.
Oui, mais en même temps, un poste que vous avez pris à cœur en laissant toute liberté à vos étudiants. Et en ne leur donnant pas de conseils, en leur disant d'aller vers là où leur désir les portait.
J'ai toujours considéré que quand on est encadrant, quand on encadre des élèves en thèse en particulier, on doit assumer pleinement son rôle de conseiller. Vous savez, nos amis anglo-saxons ne disent pas directeur de thèse, mais ils disent advisor, le conseiller. Et c'est bien comme cela que je l'ai compris, et c'est bien comme cela aussi que mon propre directeur de thèse fonctionnait avec moi.
Vous n'avez jamais séparé, Cédric Villani, la poésie de la mathématique. Vous n'êtes pas le seul, vous avez eu d'illustres prédécesseurs. Il y a beaucoup moins d'enseignements épistémologiques et de l'histoire des sciences, hélas, dans notre université française aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu de grands poètes qui étaient aussi de grands scientifiques, qui étaient aussi de grands pédagogues. Je veux parler de Gaston Bachelard, que nous allons écouter. Il va évoquer sa passion pour les mots et il va essayer de distinguer la science et la poésie. C'est une archivina du 27 novembre 1961 au micro de Roger Piodin.
Alors là, vous faites allusion à un chapitre bien, bien dangereux que j'ai écrit dans mon dernier livre, La poétique de la rêverie. Mais je me suis confessé, j'aime les mots. Il me semble que j'aurai encore du plaisir à lire des dictionnaires, à rêver sur les mots. Ce que j'ai dû, tout de même, un peu trop fantaisiste, juger des mots par leur caractère masculin ou féminin, leur donner un genre d'une rigueur et les mettre quelquefois en communion, mais en hostilité. Oh, je me suis peut-être trop amusé en faisant cela.
Vous vous amusez comme Gaston Bachelard le faisait, en faisant de la recherche en mathématiques, Cédric Villani. Et les mots, vous en avez besoin pour exprimer votre recherche ou pas du tout?
On a besoin de mots pour exprimer les recherches, mais le plaisir de construire en mathématiques est avant tout un plaisir de la construction, de l'architecture. Nos collègues spécialistes de neurosciences, d'ailleurs, nous indiquent que les zones du cerveau qui s'animent, qui s'activent, sont différentes quand on réfléchit à un énoncé mathématique et quand on réfléchit à un texte littéraire. L'intelligence mathématique, l'intelligence du cœur du raisonnement scientifique n'est pas une intelligence littéraire. C'est ce que nous disaient aussi des gens comme Albert Einstein et bien d'autres. Et en revanche, c'est peut-être mon côté éducation dans la littérature qui ressort. J'ai toujours eu le besoin de jouer aussi avec des mots dans l'écriture d'ouvrages, même pour mes ouvrages de recherche et même quand ils sont écrits en anglais. Je apporte toujours un soin extrême dans les moindres détails de l'écriture, ainsi que dans la construction de l'ouvrage, les constructions des chapitres les uns par rapport aux autres. Après les ouvrages de mathématiques, il y a eu d'autres occasions d'écrire l'ouvrage dont est extrait le passage que vous avez lu tout à l'heure, Théorème vivant, qui est un journal de bord qui tient lieu aussi de l'enquête policière ou du roman de mœurs dans lequel on apprend comment vivent les mathématiciens. Et puis après, il y a eu d'autres expériences que j'ai faites plus ou moins audacieuses. Par exemple, je viens de publier avec la photographe Lisa Rose un ouvrage dans lequel sans prétention, je mets des mots sur ses photos. Je fais la partie poésie, elle fait la partie photographie, en se rappelant que il y a un travail de classification des photographies qui renvoie bien à l'objet de la mathématique, mais aussi un travail qui se veut un jeu sur les mots. Il y a eu aussi les deux bandes dessinées que j'ai rédigées pour le dessin d'Edmond Baudouin, en particulier la seconde, Ballade pour un bébé robot, dans laquelle on entremêle des chansons françaises, des romans de science-fiction et des réflexions mathématico-historiques. Et puis, il y a eu aussi des textes comme celui qui est paru récemment, « Les mathématiques sont la poésie des sciences », transcription d'une petite conférence à la fin de laquelle il y a un texte un peu inclassable qui parle d'histoire des sciences, mais qui se veut sur un mode plus ou moins poétique.
Mais dans tous vos textes, Cédric Villani, y compris dans Théorème vivant, il y a des poèmes qui tout d'un coup vont trouer la manière dont vous nous restituez, de manière d'ailleurs extrêmement pénétrante, votre processus de création en faisant de la mathématique. Et puisqu'on parlait des mots, et puisque vous avez la grande sincérité de nous dire d'où vous êtes parti, comment et pourquoi vous avez fait cette cette vocation de chercheur en mathématiques, de manière simultanée, tout le temps, vous interrogez cette pratique et vous interrogez les mots qui désignent cette pratique. Tout à l'heure, vous avez dit la mathématique. Vous ne dites pas les mathématiques. Pourquoi la mathématique? Pourquoi est-ce féminin?
Oui, ouais, j'aime bien quand on se pose les questions sur les mots même qu'on emploie. Il y a des mots dont l'étymologie en soi est belle et inspirante, et il y a des mots dans lesquels on se retrouve avec des archaïsmes. Parfois c'est un R superfétatoire ou un S qui est un reliquat de l'histoire, et en l'occurrence, je considère que le pluriel à mathématiques en français est un reliquat de l'histoire qui n'a plus de raison d'être. Il nous renvoie à l'époque où Platon parler de son quadrivium, l'alliance des arts qu'il appelait arts mathématiques et dans lesquels il voyait des points communs. L'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la musique, réunis dans cette classification de la Grèce antique dans un quatuor d'art. C'est une classification qui n'a plus lieu d'être maintenant. Nous n'avons plus le même regard, plus la même vision, et il n'y a plus de raison que on conserve ce pluriel à mathématiques alors que nous disons la physique, la biologie, la histoire, la philosophie, l'économie, tout ce que vous voulez. Pourquoi diantre notre discipline aurait-elle seule l'honneur singulier d'être au pluriel? N'est-ce pas un peu prétentieux?
Dans vos ouvrages, où vous nous racontez comment viennent les idées, et c'est pas si facile, on se demande ce que ça veut dire avoir une idée, surtout quand on est chercheur en mathématiques. Alors je vous propose d'écouter l'avis de Gilles Deleuze, qui dans son abécédaire s'interroge sur ce que ça veut dire avoir des idées. Écoutez.
L'idée au sens où on l'emploie, qui n'est plus, il s'agit plus de Platon, l'idée au sens où on l'emploie, ça traverse toutes les activités créatrices. Créer, c'est avoir une idée. Puis c'est très difficile d'avoir une idée. Il y a des gens qui vivent et qui ne sont pas du tout méprisables pour ça. Ils vivent toute leur vie sans avoir eu une idée. Avoir une idée, c'est dans tous les domaines. D'ailleurs, je ne vois pas de domaine où il n'y ait pas lieu d'avoir des idées. Mais c'est rare, c'est quand même une fête d'avoir une idée. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors, je dirais, un peintre, il n'a pas moins d'idées qu'un philosophe. Simplement, ce n'est pas le même genre d'idées. Il faudrait demander, comme ça, si on réfléchit sur les différentes activités de l'homme, sous quelle forme se présente l'idée dans tel cas. Là, en philosophie, au moins, on vient de le voir, ça. L'idée en philosophie se présente sous forme de concept, et il y a création de concepts. Il n'y a pas découverte de concepts. On ne découvre pas des concepts, on les crée. Il y a autant de création dans une philosophie que dans un tableau, que dans une œuvre musicale. Bon. Mais les idées, c'est très obsédant. C'est comme des choses qui vont, qui viennent, qui s'éloignent, et puis qui prennent diverses formes. Mais à travers ces diverses formes, si variées soient-elles, elles sont reconnaissables.
Comment naissent vos idées, Cédric Villani?
Oui, je pense un peu comme celle de beaucoup de monde, mais il y a effectivement quelque chose de mystérieux dans la genèse des idées en général. J'aime bien, dans mes exposés consacrés au processus créatif, que j'illustre avec autant d'exemples scientifiques que je connais, mais qui peut s'appliquer aussi à d'autres domaines bien sûr, j'aime bien distinguer sept ingrédients qu'on retrouve un peu partout. Il y a la documentation, car les idées viennent toujours des idées des précédents, de la génération précédente, des autres experts. Il y a la motivation, l'ingrédient le plus essentiel peut-être et le plus mystérieux. Qui sait ce qui motive les gens? Il y a les échanges et il y a aussi les conversations, l'environnement, avec le distinguo qu'on doit faire entre les échanges entre experts qui peuvent communiquer à des milliers de kilomètres, et l'environnement qui se fait entre personnes de spécialités différentes mais s'inspirant les uns les autres, et qui font que très souvent les idées viennent en écosystèmes qui sont localisés géographiquement dans une ville, dans un pays, dans une école. Il faut ajouter à cela les contraintes. Sans contraintes, pas de création. C'est une banalité dans les milieux artistiques, c'est vrai aussi dans les sciences. Il faut ajouter à cela le mélange de réflexion profonde et d'inspiration subite qui a été décrit par tous ceux qui ont parlé de leurs expériences de belles idées. Il faut y ajouter encore le mélange de persévérance et de chance qui vient toujours derrière les bonnes idées. Tout cela, ça fait effectivement beaucoup d'ingrédients et le travail de processus créatif en mathématiques comme dans bien d'autres endroits est beaucoup plus collectif qu'on ne l'imagine en fait. Alors, évidemment, il y a des éléments qui sont universels, il y a des éléments qui sont singuliers et on sait que certains penseurs se sont illustrés par leur capacité à construire de grands systèmes, à être dans un défrichage systématique de leurs idées et des concepts, tandis que d'autres se sont illustrés avec des coups de génie ici et là. Henri Poincaré parlait de la pensée, un éclair dans une longue nuit. Le regretté Jean-Pierre Kahane parlait des fleurs qu'il cultivait comme un jardinier qui poussait ici et là. Le phénomène indien Ramanujan évoquait les idées que lui suggérait la déesse protectrice de son village. Il y a ensuite évidemment des profils extrêmement différents des uns et des autres.
Donc, si je vous comprends bien, Cédric Villani, personne n'a une idée singulière. Donc, toute création, toute découverte est collective et s'inscrit dans une temporalité précise. Or, il y a quand même, et vous en êtes un exemple très concret, il y a quand même des prix donnés à des artistes mathématiciens. Vous avez eu le prix Fields quand vous étiez extrêmement jeune. Tous les ans, il y a des prix Nobel qui sont donnés ainsi que des prix Fields. Donc ça veut bien dire que cet esprit de recherche, il se concrétise à l'intérieur d'un cerveau, alors que vous dites que c'est toujours collectif et contextualisable historiquement et géographiquement.
Oui, il y a besoin. Bien sûr.
C'est pour amuser la galerie qu'on nous fait croire qu'il y a des petits génies, alors.
Le petit génie, c'est une expression que nous n'employons presque jamais en mathématiques. Et on le réserve pour les cas qui sont vraiment exceptionnels. Un Poincaré, un Turing, et quelques autres. Mais la plupart du temps, c'est un exercice qui a sa part d'arbitraire et sa part d'objectif d'essayer de séparer le mérite des uns et des autres. Mais on sait bien, quand on est dans la recherche, à quel point la création est collective ou à quel point on peut dire c'est quand une individualité, quand un cerveau, un esprit rencontre un collectif. Il y a la question d'inspiration, la question de travailler en faisant progresser ses idées. Et la bonne idée isolée ne survient quasiment jamais. Ramanujan, on peut argumenter, est une exception. Mais même dans les cas que j'évoquais tout à l'heure, Henri Poincaré, il s'inscrit dans une époque, dans des problématiques qui sont les siennes, et dans le cadre d'une école, mathématique bien donnée. C'est bien pour ça que l'art mathématique, comme les autres arts, se transmet d'élève en élève, de génération en génération. C'est bien pour ça aussi qu'il y a une grande différence dans les façons de l'aborder d'un pays, d'un territoire à l'autre. Mais ici, on n'a pas quelque chose qui est particulier à la mathématique. C'est comme pour la peinture. Tout à l'heure, dans l'extrait que nous écoutions, Deleuze évoquait les bonnes idées du peintre. Entre parenthèses, je vous suis reconnaissant d'avoir choisi Deleuze. Mon oncle Arnaud Villani, philosophe, était un ami personnel et un grand expert de Deleuze, et toujours un grand expert de Deleuze. En ce moment, il travaille sur les philosophes pré-platoniciens et pré-socratiques. Et on voit bien, il y a des idées de grands peintres, des éclairs, qu'on peut dire des génies, mais il y a aussi toute l'école qui va avec et toute la culture dans laquelle ils s'inscrivent. Et quand on regarde la postérité, on retient un ou deux souvent qui sont les plus doués, les exemples, mais sans tout l'ensemble, sans l'école qui accompagne, il n'aurait juste pas existé. On ne considère pas juste une individualité. Pour autant, il y a des récompenses, oui. Il y a des récompenses de la même façon qu'on célèbre, je ne sais pas, les grands explorateurs comme Magellan, alors que les découvertes qu'ils ont faites, on les aurait forcément faites un jour ou l'autre. Alors même que les détroits, les continents qu'ils ont défrichés, bien sûr, ils existaient déjà avant. Mais on célèbre l'esprit d'aventure, le fait que l'explorateur, l'exploratrice ait été le premier, la première, qu'une Alexandra David-Neill a exploré tout le Tibet, la Chine, s'est retrouvée dans des espaces où aucun occidental n'avait osé s'aventurer jusqu'alors. Et c'est bien cet esprit d'audace qu'on veut célébrer parce qu'on l'admire, parce qu'on sait tout ce qu'on lui doit, tout ce que l'humanité lui doit.
Mais c'est peut-être parce que depuis longtemps, depuis toute petite, j'ai peur de la mathématique que je m'en fais une idée romanesque, Cédric Villani. Mais en vous lisant, et en lisant notamment le livre passionnant que vous avez écrit avec Carole Beffa qui s'intitule « Les coulisses de la création », j'ai appris que de temps en temps, il y avait des météorites qui surgissaient dans le ciel de la création mathématique. Vous évoquez par exemple ce monsieur, il s'appelle Zhang Yitang, c'est un mathématicien chinois que personne ne connaissait, c'est vous qui le dites, et qui tout d'un coup, à 58 ans, publie la preuve d'un résultat extraordinaire qui tout d'un coup a littéralement bouleversé la communauté mathématique. Que s'est-il passé ? Comment un individu peut faire de la recherche tout seul et bouleverser les codes de votre discipline et trouver quelque chose, trouver
Trouver, c'est le métier des chercheurs, malgré leur nom, si je puis dire. Et en l'occurrence, Zhang Yitang, il faut pas croire qu'il soit entièrement isolé, c'est pareil. Lui-même a fait sa thèse dans les grandes universités américaines, s'inscrit dans une école, dans une temporalité. Ce qui est extraordinaire dans son cas, c'est qu'après une carrière qui n'avait rien donné de notable, qui était complètement sorti des radars, il s'est retrouvé à publier ce résultat incroyable qui lui a valu toutes les récompenses à un âge où on considère d'habitude les carrières comme terminées. Il y a un mythe qui dit que la carrière d'un mathématicien s'achève à 40 ans, voire à 30. L'exemple de ce collègue chinois est là pour nous démontrer que c'est complètement faux. Et il s'agit bien sûr d'exemples rares, mais il s'agit d'un exemple qui est incontestable. On pense, quand on parle de météores en mathématiques, plutôt à des profils comme Évariste Galois, mort en duel à 20 ans après avoir révolutionné sa discipline. Là, on a le vrai météore, celui dont il faut, pour lequel il faut en plus des décennies pour apprécier complètement son apport, tellement il était en avance sur son époque. Mais vous avez aussi ce profil de quelqu'un qui se révèle sur le tard avec un chef-d'œuvre.
Alors, vous nous avez dit, Cédric Villani, tout à l'heure, que vous étiez poète à vos heures, des textes dans différentes disciplines, mais on le voit, on le comprend, on le sait. Vous n'avez pas dit que vous étiez un fou amoureux de cinéma, vous n'avez pas dit que vous étiez un obsessionnel des mangas, vous n'avez pas dit non plus que vous aimiez la musique et un certain type de musique, notamment celle-ci. Écoutez.
So many places where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggage, for the baggage is so heavy. I hear the players ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really knows me. And it's getting me so. It's getting me
Alors, vous esquissez quelques petits mouvements. Votre célèbre araignée sur votre revers de veston ne vous en empêche pas. Et votre lavalière que vous avez mise bleue en honneur de l'or bleu, j'imagine.
Bien sûr.
Je me demandais si vous dansiez le jerk sur cette chanson des Motors.
Ça m'est arrivé, oui, Airport des Motors. Ça m'est arrivé de danser de façon plus ou moins sauvage dans les boîtes de nuit, dans les soirées organisées par quand j'étais étudiant, ou dans les concerts de chanteurs variés. Par exemple, François Gilazzaro, Fishback et bien d'autres. Et effectivement, cet exemple, pour moi, il a une résonance personnelle. Ça fait partie des titres sur lesquels j'étais tombé adolescent en écoutant, en zappant d'une chaîne de radio à l'autre, et puis je m'étais dit waouh, ça c'est quelque chose d'entraînant, de très intéressant, et j'avais enregistré un petit morceau sans être capable de mettre d'identifier. Bien plus tard, il m'a suffi de taper sur un moteur de recherche quelques paroles que j'avais pu glaner dans le refrain pour tomber dessus. C'est la magie de l'information telle qu'elle est maintenant, de l'accès à l'information telle que les moteurs de recherche façon Google ou Quant nous les rendent possibles.
Alors, vous préférez la fête aux bibliothèques, Cédric Villani, et à la fin de votre livre intitulé « Théorème vivant », où vous racontez par le biais d'un journal intime vos propres recherches, quand vous êtes à l'université de Princeton, dans ce célèbre Institute for Advanced Study. Vous terminez ce livre, il faut aller jusqu'à la fin du livre pour s'apercevoir qu'en fait, ce Princeton, qui pourtant est demandé par tous les grands chercheurs rêvent d'aller enseigner à Princeton, pas tellement vous, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de groupe de rock, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de dancing floor, donc finalement, c'est pas terrible.
Voilà, vous avez cité cette petite préface du groupe de rock local de Princeton, D&E, pour Do Not Erase, qui dresse un petit portrait au vitriol. Mais Princeton a ses charmes aussi. Simplement, ça dépend de ce que vous y recherchez.
Alors, je crois que vous êtes engagé dans tous les sens du terme, engagé poétique, engagé dans la recherche, engagé dans la recherche de l'égalité, engagé aussi dans la musique. Écoutez votre second choix.
Je voudrais pouvoir t'aimer 2 ans, 3 ans, 10 ans, t'aimer jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque, que le bonheur de t'aimer s'estompe, afin que je puisse aimer quelqu'un d'autre que toi. Quelque autre chose que toi. La, 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 la.
C'est pour la beauté de sa voix, c'est pour son côté militant que vous aimez à la folie Catherine Ribeiro, Cédric Villani.
La grande Catherine.
La grande Catherine.
Ah ben, il y a bien sûr la radicalité du propos, la force de la révolte, et puis la voix incomparable. Et effectivement, sa musique a accompagné certaines de mes recherches, et son grand portrait dédicacé orne encore le bureau, mon bureau à l'Assemblée nationale.
Ah, donc vous l'avez transporté de l'ENS de Lyon, où vous avez enseigné longtemps, de l'Institut Poincaré, dont vous avez été le directeur. Maintenant, dans votre bureau de député, vous avez Catherine Ribeiro.
Absolument.
Vous vivez avec Catherine.
On peut dire ça comme ça, mais effectivement, Catherine, dans cette photo, représente bien la force de révolte et la puissance de la voix qui sont aussi des outils majeurs et incontournables dans n'importe quelle action politique. Et puis, la voix, c'est l'outil majeur du député ou d'une personnalité politique quelconque, quelle qu'elle soit. Et puis, la révolte, il en faut pour se lancer dans un grand projet, quel qu'il soit.
Alors, nous venons d'entendre la chanson de Catherine Ribeiro que vous avez choisie, Cédric Villani. Il s'agissait d'une chanson d'amour. Et je remarque que la métaphore amoureuse parcourt complètement ce livre qui s'intitule « Théorème vivant ». Et j'ai cru comprendre qu'avec la mathématique et avec votre esprit de recherche, finalement, on peut dire que vous avez donné corps et âme à l'équation et que le vocabulaire amoureux est très important pour définir vos liaisons dangereuses.
C'est possible, mais pour le coup, et malgré ce qu'on pourrait croire, je suis loin d'être le seul en la matière. Les chercheurs, pour la plupart, et ceux dans beaucoup de disciplines, voient leur art avec passion. Leur objet d'étude, c'est quelque chose dans lequel ils sont immergés, corps et âme, et ça leur arrive d'en rêver la nuit. Et quand on se lance dans un sujet, si on le trouve pas beau, si on n'a pas une affection particulière pour lui, on n'y arrive pas. On parlait tout à l'heure de tous ces ingrédients multiples qu'il faut arriver à matérialiser, si je puis dire, pour que l'idée aboutisse. Il vous faut une dose de motivation extraordinaire pour cela, je veux dire, pour avoir la vraie bonne idée, pour la mener à terme, pour faire la vraie bonne découverte, qui ne se conçoit certainement pas sans amour.
Dans deux soirs, vous allez nous emmener dans vos nuits de l'incertitude, Cédric Villani. Vous allez dialoguer avec Alberto Manguel, qui est un immense chercheur plutôt en littérature, qui est lui aussi à sa manière un très grand poète et qui dirige d'ailleurs ce qui est l'équivalent de la Bibliothèque de France chez nous, dans son propre pays en ce moment. Il vient en France pour dialoguer avec vous à l'occasion de la nuit de la géométrie, à la Fondation Cartier. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait de vous. Écoutez.
Quand j'ai rencontré Borges, un des premiers livres qui m'a fait lire, c'est la biographie des mathématiciens, surtout du 19e, qui avait été publiée dans une collection de Penguin. C'était très fascinant parce que ce qui l'intéressait, Borges, c'est l'aspect de littérature fantastique que les mathématiques ont et qu'il avait utilisé d'ailleurs dans plusieurs de ses fictions. Clonucbar, par exemple, dans cet univers parallèle, il utilise plusieurs des théories mathématiques qu'il avait intéressé dans les encyclopédies, dans des biographies des mathématiciens comme celle qu'il m'avait donnée. Aussi, il était fasciné par un mathématicien qui s'appelle Hinton et que personne ne connaît, ou du moins je ne connais personne qui le connaît, qui avait écrit aussi des nouvelles fantastiques. Et des nouvelles fantastiques qui étaient toutes basées sur certaines théories, certains théorèmes mathématiques. Aussi Abbott, celui qui avait écrit Flatland, un monde qui n'a que deux dimensions. Et Borges était fasciné par cette idée de d'écrire un monde sans tenir compte de un des éléments physiques d'une autre. La lecture que Borges faisait du monde était toujours penchée vers le fantastique, et dans les mathématiques, il trouvait une source scientifique pour cette imagination débordante. Cédric, vous êtes grand lecteur, comme je sais que vous avez lu Borges. Dites-moi ce que vous pensez de l'aspect mathématique des contes comme La mort et la boussole ou Clonucbar orbis tertius, ou encore examen de l'œuvre de Herbert Quain, où des éléments mathématiques sont au cœur de ces récits fantastiques.
Cédric ?
Oui, Alberto Manguel a très bien décrit ce côté conte fantastique qu'il y a dans un récit mathématique, où on se met à mettre en place des objets qui pourraient exister, des objets qui s'inspirent de ce qui existe vraiment, mais qui vont les transformer parfois subtilement. On sait que la poésie, étymologiquement parlant, c'est un acte de création dans lequel on s'occupe de créer un monde qui s'inspire du monde existant tout en le transformant, et c'est bien cela que fait la mathématique souvent. Et on trouve bien sûr des inspirations de ce style dans les ouvrages dans les œuvres et dans les contes de Borges. Et ce que j'apprécie particulièrement aussi, c'est que Manguel a cité un certain nombre de contes, de nouvelles qui ont effectivement une inspiration qui va s'apparenter à, qui va puiser son inspiration en partie dans des questions mathématiques, dans des questions géométrie, dans des questions de topologie, dans des questions de combinatoire, et il prend soin de ne pas mentionner celui auquel tout le monde pense, la bibliothèque de Babel, qui est précisément celui que j'aime le moins dans la vaine inspiration mathématique, parce que sous couvert, c'est pour le coup, c'est une que je trouve pas si bien réussie que ça de la part de l'immense Borges, parce que les occurrences qu'il décrit, des ouvrages qu'on trouve dans cette bibliothèque où sont écrits tous les livres possibles, sont complètement irréalistes. Et ça saute aux yeux quand vous avez fait un peu de probabilité et de combinatoire que c'est pas du tout réaliste, même dans cet environnement imaginaire. Alors que dans les autres, on a quelque chose qui est moins systématique, plus poétique, plus inspirant. Je savais pas que Borges avait cette fascination pour des auteurs comme Abbott, qu'effectivement on aime bien, dont on aime bien mentionner l'œuvre, effectivement, en imaginant ce que serait un récit en deux dimensions, mais à bien y réfléchir, ça n'est pas étonnant.
Eh bien, j'envie les auditeurs et les auditrices qui auront la chance de pouvoir assister à votre dialogue avec Alberto Manguel, Cédric Villani. Êtes-vous mystique ?
Ouh là là, je ne sais pas trop ce que vous entendez par là. Mais je suis
Il y a eu des mathématiciens mystiques.
Il y a eu des mathématiciens avec toutes sortes de convictions, toutes sortes de religions. On sait que Newton lui-même a passé un temps considérable dans les méandres de l'alchimie et effectivement du mysticisme. Il est clair que je n'ai pas les mêmes préoccupations en la matière que Newton, mais disons que je suis ouvert à toutes sortes de visions du monde. Dans l'événement que vous mentionnez, ce sera après-demain à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Précisément, ce qui sera en jeu, en discussion, ce qui est en discussion dans l'exposition qui se tient actuellement sur les géométries, c'est la façon dont on a pu voir le monde et dont les visions géométriques se sont imposées dans divers contextes, en particulier dans l'art latino-américain. Et comment c'est quelque chose qui est venu aussi bien dans des questions architecturales, dans des questions, dans des œuvres faites en tissu, en bois, dans des peintures faites sur le corps humain, aussi bien dans l'art contemporain que dans l'art précolombien, ça sera une façon de célébrer la diversité des façons de voir le monde et de le représenter. La poésie est un langage qui représente le monde, d'une certaine façon, et la mathématique aussi, en choisissant les éléments sur lesquels on veut insister, ce qu'on veut mettre en avant, ce qui permettront de mettre en lumière telle ou telle caractéristique de notre monde. Et dans notre dialogue avec Alberto Manguel, on parlera de ce rôle poétique, à la fois précis et flou de la géométrie pour représenter le monde. Ça sera comme une sorte de ping-pong entre lui et moi, avec l'érudition extraordinaire d'Alberto.
Êtes-vous fatigué, Cédric Villani ?
On est souvent, dans le genre de fonction que j'occupe en ce moment, fatigué à la fin de la journée. Et parfois trop, parfois bien comme il faut. Mais quand il s'agit d'explorer et de trouver de nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles pistes, jamais fatigué.
Les tennismans, quelquefois, sont obligés de terminer leur carrière très rapidement parce que les jambes ne vont pas assez vite. Vous avez décidé d'arrêter la recherche mathématique pour devenir député de La République En Marche. Est-ce parce que vous avez peur que votre cerveau ne fonctionne pas aussi vite, que vous êtes réfugié dans un monde qui est tant décrié aujourd'hui ?
Si j'avais voulu me réfugier, je ne serais pas allé en politique. C'est bien l'endroit où vous n'êtes à l'abri de rien. Et je dirais qu'il s'agit d'une nouvelle facette de mon engagement. Et on dit tellement que c'est important de réussir la connexion, la coordination entre l'expert et le politique. Et c'est vrai, à une époque où les problèmes politiques qui se posent font de plus en plus appel à une expertise technique variée, il est bon qu'il y ait de temps en temps des experts qui passent du côté de la politique et qui jouent le jeu pleinement des institutions politiques. Et c'est à ça que je m'attelle depuis un an et demi maintenant.
Vous avez rendu deux rapports, l'un sur l'éducation des mathématiques, mais pas seulement, des sciences en général, un autre sur l'intelligence artificielle. Avez-vous l'impression que, comme souvent dans l'histoire de la Ve République, ces rapports ont été mis sous la table, ou avez-vous l'impression qu'au contraire, vos avis sont suivis de faits, F-A-I-T-S ?
J'ai eu la chance de m'impliquer de façon forte dans deux rapports au gouvernement et dans un troisième dossier aussi qui me tenait particulièrement à cœur, celui de l'affaire Maurice Audin et la reconnaissance par le chef de l'État de la responsabilité avec
la responsabilité de l'État. Eh bien, bravo, parce que vous avez été entendu.
Avec les mots qui convenaient, effectivement, j'ai été entendu. Sur les trois dossiers, j'ai eu la chance d'être entendu et je dirais, dans les trois cas, 90 ou 95%, les actions qui ont été arbitrées par le gouvernement, par les présidents, reprenaient mes recommandations et sont actuellement en cours de mise en œuvre. Et c'est là qu'arrive une autre phase de l'action publique, parce que élaborer un plan, c'est bien, c'est un exercice dans lequel vous devez écouter beaucoup de spécialistes, faire œuvre de synthèse et puis de persuasion, de conviction, de mise en vision.
Ça vous plaît ?
Mais ensuite,
vous êtes patient ?
Et c'est passionnant. Mais ensuite vient l'exécution. Quand vous êtes au Parlement, vous avez la chance de pouvoir aussi suivre l'exécution, car c'est votre rôle, entre autres, de contrôler l'action publique. Et l'exécution, c'est une affaire qui est très complexe aussi. Ce sont des obstacles et des difficultés différentes. Il s'agit de mettre en œuvre effectivement une politique. Et comme vous le découvrez, ce n'est pas parce qu'un ordre est donné au sommet de l'État qu'il est effectivement exécuté sur le terrain. Il y a la question de contrôler tout cela. Il y a la question de faire œuvre de conviction. Dans le cas du rapport sur l'éducation mathématique, un coordinateur a été nommé. Il s'agit de mon collègue Charles Torossian, inspecteur général. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, un coordinateur interministériel a aussi nommé. Il s'appelle Bertrand Payès. Et dans un cas comme dans l'autre, je suis de très près leurs efforts pour que le rapport qui a été accepté, qui a été traduit en instruction, se concrétise effectivement sur le terrain. C'est une affaire qui demande des mois et des années d'efforts.
Merci monsieur le chercheur, merci monsieur le professeur, pardon, merci monsieur le député,
merci
d'être venu. Merci infiniment Cédric Villani.
Voyage d'été de ton âme se repose de
torrents. Si le temps qui te retourne est au calme, fais de lui ton amant. Les plafonds se voient recouverts de sable, le décor te revient. Dans la nuit des jeunes autour de la table, ces lumières tu retiens. C'est la lueur que je poursuis sa flamme. C'est l'air de sans un bruit. Elle garde en elle tous mes oublis. Je dois l'atteindre avant. Déjà les rayons chauds de l'astre t'embrasent, le présent est sans fin. Mille heures se déversent comme des pétales, les marées courent très loin.
C'était le groupe Jaune qui interprétait La Lueur. Merci à l'adorable Nasser Moussaoui qui était à la technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Antoine Joubert. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à l'adorable aussi Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec Mishka, Mishka Sayas. Alors, on continue l'électro, électro mon amour, Mishka.
Oui. Ben oui, vous avez tout résumé avec l'art qui vous caractérise. Oui, ce sera plutôt on ira aux quatre coins du monde. Ce sera très world music d'une certaine façon.
Voilà. Eh bien, à tout à l'heure pour la suite du voyage.